cancer bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Il y a des roses tendres qui sont doux. Tout de suite, les roses tendres, c'est mièvre. Alors bon, c'est difficile, hein, c'est très difficile.
On tombe dans la layette tout de suite.
Dans la layette, dans Barbie et tout ça. Alors que le rose, c'est une couleur de force, quoi. C'est une vibration intense.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Les innombrables fidèles de France Culture le savent et ils s'en réjouissent. Michel Pastoureau est l'historien sans pareil des animaux et des couleurs. J'ai fait souvent profiter nos auditrices et nos auditeurs de sa science efflorescente et allègrement pédagogique, à telle enseigne qu'il détient le record de mes invitations au cours du dernier quart de siècle, son seul concurrent en tête du peloton, étant l'admirable Maurice Sartre pour l'Antiquité. Je veille naturellement à ce que tous deux continuent d'entretenir des relations courtoises au cœur même de leur âpre compétition et j'espère bien y parvenir. Mais trêve de joyeuseté. Parmi le chromatisme où Michel Pastoureau déploie ses fécondes curiosités tout en stimulant les nôtres, il n'avait pas encore parlé du rose et il était temps qu'il le fît. Ce sera donc pour ce matin. Avec lui et le beau livre qu'il publie, nous allons expliquer pourquoi la couleur rose a pu mettre tant de temps à s'affirmer dans sa spécificité. On se rappelle le spectre de Newton au XVIIIe siècle, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Le rose n'y figurait pas. Il nous va falloir le comprendre. Les incertitudes lexicales n'y suffisent pas, puisqu'elles reflètent simplement cette longue situation de quasi-paria. La complexité des techniques artisanales a eu sa part naturellement dans cette infériorité, mais on se doit évidemment d'aller chercher plus loin, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Non sans relever les brillantes revanches que le rose a connues depuis le XVIe siècle, mais sans que s'efface jamais une ambivalence intrinsèque à lui, parfois célébrée, arborée, chantée, parfois ostracisée, humiliée, discréditée. Peu de couleurs ont connu un tel contraste entre adhésion et rejet. Quoi qu'il en soit, il est fort heureux pour le rose qu'il ait été favorisé depuis longtemps par son intimité avec le nom d'une fleur exquise, exquise mais fragile.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Françoise Hardy chantait en 1965 « Mon ami la rose », une chanson de Cécile Collier. Naturellement, la disparition récente de Françoise Hardy ajoute une coloration de chagrin à cette diffusion. C'est aussi un peu un hommage.
Oui, et ça m'évoque mon adolescence. Je crois que c'est un des premiers disques que j'ai acheté avec mon argent de poche.
Je ne suis pas indiscret en disant que c'est vous qui me l'avez demandé, cette chanson.
Oui, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé Françoise Hardy. Il n'y a toujours qu'un côté mélancolique qui l'a accompagné pendant très longtemps.
Nous verrons le lien entre la fleur et la couleur, qui est d'ailleurs assez tardif. Mais auparavant, je voudrais que nous allions tout droit vers un certain discrédit du rose, avec des variantes que nous verrons. Des sondages récents, vous aimez beaucoup les sondages quant aux couleurs, sont à cet égard tout à fait éloquents.
Oui, ils ne sont pas que récents. Nous avons la chance d'avoir des enquêtes d'opinion sur la notion de couleur préférée depuis la fin du 19e siècle. On demande aux gens dans la rue « quelle est votre couleur préférée ?» C'est souvent la publicité qui a besoin de tels sondages. Et donc depuis les années 1880, les résultats ne changent pas. Le bleu écrase tout en Europe. 50% des personnes interrogées ont le bleu pour couleur préférée, devant le vert, puis le rouge. Et le trio de queue, c'est toujours le rose, le violet et le brun. Les résultats sont à peu près les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et sont les mêmes dans les différents pays d'Europe occidentale. Pour l'historien, c'est un document fascinant parce que malgré les changements de société, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ce problème des couleurs préférées ou mal aimées.
Tout de même, une différence entre les hommes et les femmes par rapport au rose. 26% des hommes déclarent que le rose est en queue de peloton et 12% des femmes seulement. Déjà, nous apercevons les éléments d'une réflexion que nous allons avoir à développer à cet égard, le côté genré de la couleur.
Voilà, ça ce sont les chiffres les plus récents. Ils étaient longtemps stables et à peu près égaux pour les hommes et pour les femmes, et puis un décrochage se fait à partir des années 70-80, et en effet, les femmes semblent préférer davantage le rose que les hommes, et surtout les petites filles et les jeunes filles, que les femmes plus âgées.
Nous y viendrons forcément. Portons-nous loin en arrière pour constater que dans l'Antiquité grecque et romaine, l'adjectif et le substantif n'existaient pas. On trouve en grec rhodadadus, en latin roseus et rosaceus, mais vous nous dites que ce sont des faux amis.
Oui, roseus ne veut pas du tout dire rose, il veut dire très beau rouge, vermeil, quelque chose comme ça. Donc ne faisons pas de faux sens si nous faisons une version latine. Et pour dire rose en latin, on a bien du mal. L'adjectif le plus fréquent est peut-être pallidus, celui qui convient le mieux, qui veut dire pâle bien sûr, et qui s'applique à différentes colorations, dont ce que nous appelons le rose.
Rosaceus.
C'est un doublé de roseus, une sorte de diminutif, mais qui s'applique surtout à la botanique.
Considérons ce que nous disent les anciens, un bref moment. Pline, par exemple. Pline l'Ancien, naturellement.
Il est très bavard sur la botanique en général, un peu sur les fleurs, dans son histoire naturelle, une source de premier plan, naturellement, pour l'histoire culturelle du monde occidental. Sur la rose, il en fait la reine des fleurs, la plus belle des fleurs, peut-être à égalité avec le lys, donc du rouge d'un côté, du blanc de l'autre. Mais il n'y a pas de rose rose dans l'Antiquité. Il y a des roses blanches, il y a des roses rouges. Plus tard, il y aura des roses jaunes, mais pas de rose rose. Il faut aller chercher la couleur chez d'autres fleurs pour ce qui est de la botanique, et puis du côté des minéraux, il y a un certain nombre de roches et de terres qui ont des couleurs roses ou rosées en quelque sorte.
Pline propose déjà un rapport privilégié avec la peau.
Oui, c'est ce qui est le gros dossier au fond dans l'Antiquité, spécialement pour ce qui est de la représentation picturale. C'est là où on trouve le plus de tons rose, c'est dans la représentation de la peau, du corps, de la nudité. Ça n'est pas très fréquent dans la Grèce ancienne, mais c'est surabondant dans la peinture romaine. Quand on regarde les peintures murales de telle ou telle villa dans les environs de Rome, ou même dans les cités vésuviennes, Pompéi et les autres, il y a beaucoup de nus et de nus féminins, pas nécessairement érotiques, hein, ça peut être des déesses par exemple, et il y a des tons rosés assez variés, saturés, très pâles, tirant sur le violet ou sur le rouge vif.
Pline a été tué par l'éruption du Vésuve, mais c'est grâce à cette éruption que l'on trouve du côté d'Herculanum et de Pompéi des témoignages de peinture murale qui éclairent notre réflexion sur le rose.
Oui, Pline était trop curieux, il s'est approché trop près en 79 de notre ère et il est mort non pas à cause de la lave ou des flammes mais à cause des vapeurs qui l'ont intoxiqué. Mais grâce à l'éruption du Vésuve, nous connaissons très bien une partie de la peinture romaine, non seulement à Pompéi, mais aussi à Stabie et dans deux ou trois autres villes. Évidemment, nous voyons ces peintures qui ont été mises au jour à partir du XVIIIe siècle, telles que le temps les a faites, telles que l'éruption aussi les a faites. On peut se demander si les roses que nous voyons sur ces murs étaient déjà roses à l'origine. À Pompéi, par exemple, les villas ont été reconstruites un peu avant l'éruption parce qu'il y avait eu plusieurs tremblements de terre et les riches patriciens qui possèdent ces villas, on dirait aujourd'hui des parvenus, veulent ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire des pigments qui coûtent une fortune, à base de cinabre, un pigment minéral qu'on fait venir de loin, en général du cœur de l'Espagne. Le cinabre, c'est une sorte de sulfure de mercure, apparenté en tout cas, et qui permet des déclinaisons de rouge très saturé, soit tirant vers le violacé, soit tirant vers un rose très très saturé. C'est ainsi que nous le voyons aujourd'hui sur les murs de Pompéi. Est-ce qu'il était déjà comme ça à l'origine ou non ? C'est une question qu'on peut se poser, qui est débattue parce que la chaleur de l'éruption a transformé un certain nombre de pigments, notamment tout ce qui relevait des ocres jaunes est passé au rouge. Donc il y avait peut-être moins de rouge sur les murs de Pompéi qu'on en voit aujourd'hui.
Mais qu'appelle-t-on une couleur saturée ?
C'est difficile à définir. Je crois que la définition la plus simple, ce serait de dire c'est une couleur dense, une couleur qui se concentre sur elle-même, et faire un synonyme des mots saturation et densité ne me semble pas exagéré, même si un peintre ergoterait et dirait que c'est plus compliqué que cela.
Dans votre livre, qui est magnifiquement illustré, Michel Pastoureau, on trouve en particulier la reproduction de ce que nous a proposé le Fayoum, c'est cette riche oasis dans le désert occidental de l'Égypte.
Oui, alors c'est une source très très importante pour la représentation des portraits de l'Antiquité, de l'époque romaine. Nous sommes dans une Égypte romaine et les personnages, hommes et femmes, sont vêtus à la romaine. Ce sont des peintures de visage ou de buste que l'on insère dans la momie du défunt. Certains sont purement conventionnels, d'autres sont probablement réalistes et évoquent vraiment la figure du mort. Il y a beaucoup de bijoux, beaucoup de fards, beaucoup de vêtements et beaucoup de tons roses, notamment pour les figures féminines. La peau des hommes est toujours plus foncée dans l'Antiquité que celle des femmes. C'est déjà le cas dans l'Égypte pharaonique, c'est encore vrai dans la peinture romaine et ça se lit parfaitement au Fayoum où les hommes ont une peau un peu plus orangée, un peu plus jaune-brun que les femmes, pour lesquelles certains visages tendent vraiment vers le rose.
Avant d'être désigné comme tel, le rose évidemment est lié au maquillage. On trouve dans Ovide, le poète qui fut tant à la mode, tant chéri des dames à Rome avant d'être exilé brutalement par Auguste, il écrit quelque part « L'art du maquillage n'embellit la peau qu'à condition de ne pas trop se montrer ». Il s'agit bien du rose.
Oui, voilà, Ovide se fait ici moraliste. On a pas mal de renseignements sur les fards et sur l'art du maquillage et on s'aperçoit que sous l'Empire, on passe du rose au rouge. Les matrones romaines se tartinent la figure de couches de couleurs de plus en plus denses, de plus en plus saturées, On aime même au 3e et 4e siècle des roses ou des rouges très foncés, ce qui pour les vieux romains, disons, semble absolument indécent.
C'est une alternance qu'on retrouvera au 18e siècle, à la cour en particulier. Les hommes, les femmes surtout se mettent beaucoup de rouge et puis ensuite ils renoncent.
Voilà, on retrouvera ça exactement au 18e siècle avec un crescendo entre les années 1720 et les années 1760-70. On connaît les dangers de la plupart des produits qu'on utilise, notamment le cinabre, mais le désir de paraître est plus grand que la peur de la mort.
Venons-en au Moyen-Âge, et on va retrouver cette sorte d'hésitation du rose à s'affirmer comme tel, avant même qu'il soit dénommé.
Oui, on a du mal à le trouver dans les textes, dans les systèmes de la couleur. Pour la fin de l'Antiquité et le premier Moyen-Âge, il n'y a pas de place pour le rose. On a beaucoup de descriptions d'arc-en-ciel, par exemple, jamais de rose dans l'arc-en-ciel, lequel d'ailleurs ne ressemble pas du tout à nos arcs-en-ciel contemporains. La perception de l'arc-en-ciel et sa représentation a beaucoup changé. Il n'y a pas cette couleur dans les arcs-en-ciel antiques et médiévaux, et même du début de l'époque moderne. Il y en a 3, 4, éventuellement 5, et elles forment des séquences qui n'ont pas de rapport avec notre arc-en-ciel, lequel probablement fera rigoler nos successeurs dans quelques siècles. Donc pas de rose dans l'arc-en-ciel, pas de rose dans la liturgie. Il faudra attendre des dates beaucoup plus récentes, le 19e siècle, alors que la naissance des couleurs liturgiques, lentement, dans le premier millénaire, c'est un système de la couleur, pour l'historien bien sûr, tout se construit au cours de blanc, rouge, noir, vert. Et puis un peu plus tard, au XIIe siècle, l'héraldique naissante également se construit autour de 6 couleurs, mais il n'y a pas de place pour le rose, c'est trop tôt.
Rappelez-nous, quelles sont les couleurs du blason au Moyen-Âge ?
Ces couleurs sont au nombre de 6, ce sont les 6 couleurs de base de la culture occidentale. Elles portent des noms spécifiques, presque dès l'origine. Le blanc se dit argent, le jaune se dit or, le rouge se dit gueule, le bleu se dit azur, le noir se dit sable et le vert se dit sinople. Donc pas de rose et pas encore de violet qui fera son apparition vers la fin du Moyen-Âge. Il restera toujours une couleur assez timide dans les armoiries.
Donc dès ce moment-là, les teinturiers ne savent pas vraiment faire du rose ?
Non. Pendant le haut Moyen-Âge et encore au lendemain de l'an 1000, les teinturiers ont beaucoup de mal dans cette gamme de couleurs, comme ils en ont dans la gamme de ce que nous appelons l'oranger. Il va falloir attendre le 14e siècle pour que les choses changent.
Alors ça, c'est le tournant que vous montrez bien dans votre livre, Michel Pastoureau, quand le rose commence de devenir une couleur admirée et quand il est à la mode en milieu princier.
Oui, le 14e siècle constitue vraiment un tournant. D'abord en teinturerie, ensuite dans les arts picturaux. À cela une raison, on importe de plus en plus massivement un colorant que l'on connaissait, qui vient des Indes et de Sumatra. C'est un bois exotique, le bois de Brésil, qui a des vertus colorantes, tinctoriales et picturales. Et on le traite différemment de précédemment, on mordance différemment, ce qui permet d'obtenir de très beaux tons de rose et d'oranger sur l'étoffe et le vêtement. Ça commence assez tôt, dès les années 1340. On a ce très très beau document qui est la Practica Florentine, c'est-à-dire une loi somptuaire qui, dans les années 1343-44, à Florence, juste avant la peste, veut que les belles dames, les dames de la bonne société, aillent montrer à un notaire toute leur garde-robe, et le notaire doit enregistrer ce qu'il voit, et percevoir une taxe, naturellement, c'est une taxe sur la fortune, c'est une loi somptuaire, et ça nous vaut la description de presque 3000 pièces de vêtements, et description extrêmement précise, jamais aucun document ne livre, en latin, tout est en latin, autant de termes de couleurs avant le XVIIIe siècle. C'est un document exceptionnel pour l'historien des couleurs.
On croit parfois que c'est une sorte de réaction à la peste de 1348 qui a ravagé l'Europe et a tué près de la moitié de ses habitants, en réaction qu'on aurait tout à coup accédé au bonheur du rose. En fait, c'est antérieur.
Voilà, c'est un fait général. On pensait que jusqu'à des dates assez récentes, qu'après la peste, il y a une espèce de joie de vivre, ou de revivre plutôt, qui explique de nouvelles couleurs, de nouvelles façons de s'habiller, le vêtement court pour les hommes, le vêtement ajusté, des parures de toutes sortes, des frivolités également. Eh bien non, les documents nous montrent que tout cela est déjà là à l'horizon des années 1320-1330, donc une quinzaine d'années avant la peste évidemment, ou les lendemains de la peste, accentuant le phénomène. Mais les prémices sont antérieures. Et le rose apparaît dans les documents dès le début du XIVe siècle, du côté de la teinture, comme du côté de la peinture. Les miniatures, par exemple, montrent de plus en plus de tons roses. Mais la grande vogue, elle est pour la fin du siècle, la fin du XIVe siècle et le tout début du XVe.
Je ne sais pas si on aurait pu considérer à l'époque qu'il fallait célébrer la vie en rose, en tout cas. La voilà, vous l'attendiez. Je ne vous propose pas la version d'Edith Piaf de 1946, mais pour changer un peu, celle qui est interprétée par Grace Jones, la muse de Jean-Paul Goude, en 1977, La vie en rose.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On ne parle pas encore, à notre époque, le XIVe siècle, on ne parle pas encore du rose en tant que tel, Michel Pastoureau, on parle plutôt d'incarnat. Je vois que dans l'ouvrage qui s'appelle « Le blason des couleurs en armes, livret et devise » de 1495, qui a été un grand succès, il y a eu 6 éditions entre cette date et 1614, je vois qu'il est écrit ceci à propos de l'incarnat. C'est une couleur moult belle et gaie. Elle approche fort du rouge, mais elle en est changée car elle tire aussi sur le blanc. L'incarnat, parmi les fleurs, ressemble beaucoup à l'œillet et à la giroflée. Cette couleur signifie santé, courte vie, noblesse et personne de bonne complexion. Tout ça est très positif. Elle représente l'homme plaisant et bien assuré. Elle convient aussi aux jeunes filles et aux damoiseaux. En livrée, mise avec le gris, elle signifie espérance d'avoir richesse, avec le violet, bonne grâce envers les grands, avec le tanné, bonheur puis malheur. La couleur d'incarnat se fait plus par art que par nature. Beaucoup de choses sont dites là, non, Michel Pastoureau ?
Oui, cela veut dire que on la rencontre plus du côté de la teinturerie que du côté du monde végétal ou minéral.
Même si on s'appuie sur deux produits, l'un végétal et l'autre animal, c'est-à-dire la garance, aucun rapport évidemment avec Arletty dans le film de Carnet, Les Enfants du Paradis, la garance et le kermès. Expliquez-nous ça.
Oui, la garance, c'est la plus ancienne matière colorante dans la gamme des rouges utilisée par l'être humain, peut-être dès le néolithique très ancien. Permet de teindre en rouge et dans un rouge très très solide, mais avec des tons relativement mats qu'on peut décliner en effet dans une gamme tirant vers l'orangé ou tirant plus vers le rose. Et le kermès, c'est une matière animale que l'on tire d'un insecte qui vit sur différentes espèces de chênes en Méditerranée orientale et dans les grandes steppes d'Ukraine et de Pologne. Seule la femelle a des vertus colorantes quand elle est grosse, qu'elle s'apprête à pondre. Elle contient un suc qui, lui, va être récolté d'abord l'insecte, puis le sucre, et on en fait une teinture de très grand prix parce qu'il faut énormément d'insectes pour obtenir un peu de matière colorante. Donc c'est un produit de luxe. Mais donc on sait teindre en rouge, on sait teindre en orangé, et désormais on sait teindre en rose, non seulement avec ces matières animales et végétales, mais avec ce fameux bois de Brésil qu'on importe massivement de l'Asie. Et les Européens vont trouver au Nouveau Monde, dans le nord de l'Amérique du Sud, des bois exotiques à peu près de la même famille que le bois de Brésil, qui ont des vertus colorantes encore plus accentuées que celles des bois d'Asie, au point que le Brésil va donner son nom à tout un pays. Notre Brésil tient son nom de ce bois exotique, le Brasileum, qui évoque les cendres et la couleur rouge du feu et de ce qui en résulte. Donc le rose est très très à la mode au XVe siècle. Il relève de ce qu'on appellerait, nous, l'art contemporain aujourd'hui pour ce qui est de la peinture, et de la grande mode princière pour ce qui est de la teinture. Ce sont les classes les plus favorisées, évidemment, qui portent du rose.
Avec le prestige des grands peintres, qu'on peut dire les grands peintres de la chair, je pense au premier rang à Rubens ou au Titien.
Voilà, on a l'habitude de, au XVIe et au XVIIe siècle de classer les peintres et de leur donner des notes. Et parmi les grands coloristes, ce sont ceux qui sont censés représenter au mieux la peau, la nudité, la chair humaine. Et à la fin du XVIIe siècle, dans ses palmarès, notés sur 20 d'ailleurs, comme nos copies d'écoliers, ce sont Titien et Rubens qui l'emportent comme les plus grands coloristes, c'est-à-dire un peintre vénitien, Titien, et un peintre anversois, Rubens.
On pense naturellement à Baudelaire, Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer.
Voilà, Rubens, c'est évidemment quelque chose d'énorme pour l'historien des couleurs, parce que dans l'atelier de Rubens, à Anvers, dans la première moitié du XVIIe siècle, il y a 200 ou 250 personnes qui travaillent autour du maître. Il y a d'autres grands peintres, Van Dyck par exemple, il y a des élèves, il y a des maîtres verriers, il y a des teinturiers, il y a toute une équipe de graveurs qui fait connaître les tableaux de Rubens dans toute l'Europe, en noir et blanc, et on a même des correspondances amusantes où Rubens s'emporte contre ses graveurs, qui ont un talent fou, parce qu'ils n'ont pas bien respecté les couleurs alors qu'ils travaillent en noir et blanc. Il y a aussi des jésuites, tout le monde réfléchit à la couleur dans l'atelier de Rubens. Mais c'était déjà un peu pareil à Venise au XVIe siècle, dans l'atelier de Titien, qui a vécu très très longtemps, qui entretenait beaucoup de relations avec les savants et avec les hommes de lettres. Venise, c'est la capitale de la couleur en Europe du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. C'est une ville d'art, c'est une ville de teinture aussi, c'est une ville d'imprimerie. On écrit beaucoup au XVIe siècle sur la couleur à Venise, et une idée revient souvent chez les auteurs, qui sont en général en liaison avec les peintres. La combinaison de couleurs la plus belle, c'est l'association du rose, donc on appelle incarnatus, incarnado en vénitien, avec ce que nous appellerions, nous, le vert amande. Voilà, c'est ce qui semble le plus beau au XVIe siècle.
Il faut se reporter aux beaux travaux d'Elisabeth Crouzet-Pavant sur cette Venise et sur la circulation de la beauté, n'est-ce pas là ?
La beauté, la technique, le savoir, tous les produits d'Orient arrivent à Venise et à partir de là sont redistribués sur un axe Venise-Nuremberg, puis de Nuremberg vers Bruges, et ainsi de suite, ou bien Venise-Milan, Milan-Lyon, ou Genève, et puis plus à l'ouest et au sud-ouest. Bref, c'est la plaque tournante, c'est la capitale de la couleur, il n'y a pas d'autre expression, en Europe jusqu'au XVIIIe siècle.
Alors on éprouve rétrospectivement quelque chose comme une surprise à considérer que le mot n'est pas vraiment encore fixé. On est en quête d'un nom pour le rose. Vous vous y attachez dans votre livre, Michel Pastoureau.
Oui, on a du mal à nommer cette couleur qu'on admire, qu'on fabrique désormais, aussi bien chez les teinturiers que chez les peintres. elle n'a pas encore un mot tout à fait stable. Le plus fréquent, donc nous l'avons dit, c'est le latin incarnatus, qui donne dans les langues vernaculaires incarnato, incarnado en italien, vénitien, incarna en français. Et quand on ouvre un dictionnaire de langue française, par exemple, de la fin du XVIIe siècle, celui de Furtière, qui est tellement utile pour l'historien, qui paraît en 1690, 4 années avant celui de l'Académie française. Mais ce n'est pas la même chose, hein. Le dictionnaire de Furtière, c'est ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, un dictionnaire encyclopédique. Il y a, comme dit la page de titre, les mots et les choses.
Foucault a repris cela?
C'est ça, si vous voulez. Alors que le dictionnaire de l'Académie française, il n'y a que les mots. Eh bien, dans le dictionnaire de Furtière, si on cherche un mot rose ou mot rose, on va avoir uniquement une notice botanique. Il parle de la fleur assez longuement, des variétés, de l'horticulture, mais absolument aucune allusion à la couleur. Si on veut chercher des notations sur ce que nous appelons le rose, il faut aller du côté du mot incarna ou incarnadin. Donc là, nous sommes à la fin du XVIIe siècle et un demi-siècle plus tard, si on ouvre un autre répertoire, un autre dictionnaire, ou la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, par exemple, là, il y a 2 entrées pour rose. La botanique, la fleur, mais il y a désormais la couleur. Rose est devenue à la fois un substantif et un adjectif de couleur.
La rencontre entre la fleur et la couleur, c'est une histoire en soi. Au temps de Ronsard, ce n'était pas encore un pas accompli. Vous attendez, j'en suis sûr, qu'on vous propose une lecture de Ronsard, puisque nous allons parler de la fleur.
Écoutons-le.
Mignonne, allons voir si la rose j'ai. Par gaminerie, j'ai appelé notre émission « Allons voir si le rose ».
Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vépré, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, las, las, ses beautés laissées choir. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir, donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté.
J'ai choisi cette lecture par Jacques de Stop, sociétaire de la Comédie française dans les années 1950. Michel Pastoureau, la fleur, la couleur.
Oui, alors, tout se passe, au fond, entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Les jardiniers, les horticulteurs réussissent à créer des roses vraiment roses, qu'on ne savait pas très bien faire auparavant, où les roses étaient surtout rouges, blanches et jaunes. Désormais, elles peuvent être aussi roses dans la première moitié du XVIIIe siècle, et cela plaît tellement que la fleur donne son nom à la couleur qui n'avait qu'un vocable incertain pour la qualifier. Donc, à partir du milieu du XVIIIe siècle, en français, on parle couramment de couleur rose et de rose comme adjectif qui s'accorde en genre et en nombre, comme d'autres termes de couleur.
Il est à noter qu'en Angleterre, le même phénomène se produit pour le mot « pink ».
Voilà, c'est exactement le même phénomène et dans la même chronologie, ou presque. Pink, c'est le nom de l'œillet, en moyen anglais, puis en anglais du XVIIe siècle, et les variétés de couleurs sont assez diverses, mais l'œillet rose commence à l'emporter sur tous les autres, ça semble tellement beau que, comme pour la rose, l'œillet, le mot pink, va donner son nom à la couleur, et pink est resté le terme ordinaire pour dire rose en anglais, à partir des années 1760 jusqu'à nos jours.
L'œillet bleu est plus familier, celui qu'on voit sur les boutonnières quand on évoque la Grande Guerre.
Alors il y a des significations symboliques et emblématiques, mais il est plus ordinaire, il est moins recherché que l'œillet rose qui a des significations qui rappellent celles de l'amour, de la douceur, de la délicatesse, etc.
Quoi qu'il en soit, c'est l'apogée du rose, sur la très longue durée, c'est le second XVIIIe siècle, notamment du côté de la cour, avec toute la portée sociale d'ailleurs que cette couleur du goût peut prendre.
Oui, l'apogée de la couleur rose en France et dans les pays voisins, c'est entre 1730-40 et 1770-80.
La Pompadour y joue un rôle.
Elle a joué un rôle, elle n'a pas initié cette mode du rose dans le vêtement, dans l'ameublement, dans les arts décoratifs, mais elle l'a peut-être intensifié en milieu curial. Il y a une raison pour le vêtement, en tout cas, qui est sociologique. Pour la première fois au XVIIIe siècle, les classes qu'on appellerait nous moyennes ont droit à des couleurs vives, des rouges saturés, des bleus clairs, des verts qui sont vraiment verts. Et alors, par réaction, les classes aristocratiques se mettent au ton pastel, aux demi-teintes, aux demi-tons, au bleu pâle, au vert pâle, au ton feuille morte. Et le rose fait partie du lot et est favorisé par cette espèce de comportement réactionnaire, il n'y a pas d'autre mot, se distinguer des classes moyennes qui sont en train de s'enrichir quand on appartient au monde de la haute aristocratie. Ça favorise le rose, notamment dans le vêtement et les arts décoratifs. Ça déborde le cadre français, bien sûr, c'est pareil dans toute l'Europe occidentale. Ça va durer 2 ou 3 générations à peu près.
Et ce rose, dans sa vitalité, va passer de la cour des rois avant la Révolution jusqu'au romantisme. Dans un premier temps, le romantisme en fait sa couleur préférée.
Oui, le romantisme a eu plusieurs phases et plusieurs couleurs. Le premier romantisme voit un culte au bleu et au rose, le second plutôt au noir. Mais dans ces années 1770-80...
Pré-romantisme.
Oui, premier romantisme, c'est vraiment le bleu pâle et le rose qui est à l'honneur. Et un ouvrage ici a joué un rôle déterminant. C'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps, le plus grand succès de librairie du XVIIIe siècle. Les souffrances du jeune Werther de Goethe, qui paraît en 1774. Et dans le roman, Goethe décrit les vêtements de ses deux héros. Werther porte un habit bleu avec des culottes jaunes et Charlotte une robe blanche ornée de rubans roses.
Eh bien, je sens, Michel Pastoureau, que vous voulez que je vous fasse entendre cet extrait. Il est lu par Jean Desailly à la RTF le 20 février 1956. Un extrait des souffrances du jeune Werther, 1774.
Je traversais la cour pour m'approcher de cette maison bien bâtie. Je montais les marches du perron et en franchissant le seuil, j'eus le plus ravissant spectacle que j'ai vu de ma vie. 6 enfants, de 2 ans jusqu'à 11, se pressaient autour d'une jeune fille d'une taille moyenne mais bien prise. Elle avait une simple robe blanche avec des nœuds couleur de rose pâle aux bras et aux seins. Elle tenait un pain bis dont elle distribuait des morceaux à chacun de ses petits en proportion de son âge et de son appétit. Elle donnait avec tant de douceur et chacun disait merci avec tant de naïveté. Toutes les petites mains étaient en l'air avant que le morceau fût coupé. À mesure qu'ils recevaient leur souper, les uns s'en allaient en sautant, les autres, plus posés, se rendaient à la porte de la cour pour voir les belles dames et la voiture qui devait emmener leur chère Lolotte. « Je vous demande pardon, me dit-elle, de vous avoir donné la peine de monter, et je suis fâchée de faire attendre ces dames. Ma toilette et les petits soins du ménage pour le temps de mon absence m'ont fait oublier de donner à goûter aux enfants, et ils ne veulent pas que d'autres que moi leur coupent du pain. » Je lui fis un compliment insignifiant, et mon âme tout entière s'attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien.
Nous avons noté ces parements roses sur la robe de la jeune fille.
Oui, ça n'a l'air de rien, mais cette description va faire que pendant 2 ou 3 générations, toutes les jeunes femmes d'Europe vont s'habiller à la Charlotte, de même que tous les jeunes gens s'habillent à la Werther avec le fameux habit bleu, qui est porté comme la robe à ruban rose jusque dans les années 1830.
C'est le temps où le prince de ligne, qui est un personnage splendide de l'époque, un homme d'esprit, un homme de bonheur, le prince de ligne est appelé le prince rose. C'est lui qui est mort en valsant en 1814 au début de la conférence de Vienne.
Oui, le prince rose s'est tiré à la fois de la couleur de sa livrée, qui était un rose très saturé, mais aussi de sa personnalité. C'était un homme qui avait énormément de charme. Il était à la fois militaire, diplomate, homme de lettres, célèbre pour sa séduction, ses mots d'esprit, sa courtoisie. Il connaissait les belles manières, il a traversé différents régimes politiques. Il était connu dans toute l'Europe et admiré de toutes les dames.
Madame de Staël, d'ailleurs, raconte qu'elle lui rend visite en 1810, il a 70 ans, et elle écrit « Cet homme est le plus aimable de la terre, mais il me traite comme sa fille. Hélas !» point d'exclamation.
Voilà, c'est une lettre qu'elle a écrite à Juliette Récamier, sa grande amie, et elle regrette que cet homme si séduisant la considère comme une petite fille, presque.
Ensuite, le rose connaît un certain déclin. Il y a toujours cette pente qui conduit le rose vers la mièvrerie, vers une sorte de douceur affectée.
Ça va se passer dans la seconde moitié du 19e siècle. Peut-être trop de roses de plus en plus féminins et trop de roses portées non plus dans les classes supérieures de la société, mais un peu par tout le monde, va le faire regarder d'une manière un peu différente. Mièvrerie, une certaine vulgarité même peut-être, et puis une symbolique qui n'est plus seulement positive, mais qui va devenir aussi négative, notamment à cause des liens entre le rose et la sexualité, l'érotisme et même la pornographie. Peut-être faut-il ici parler du cochon, qui est un agent de promotion de ce rose-là, bien malgré lui.
Nous avions fait, naguère, une émission sur le cochon, et déjà vous releviez à quel point on était injuste à son égard. On va jusqu'à la formule récente du féminisme « balance ton porc, me too ».
Oui, voilà, donc c'est injuste pour le porc, du moins pour le porc des sociétés anciennes, parce qu'il a bien sûr pas mal de vices, notamment la saleté et la goinfrerie, mais il n'a pas la sexualité, le porc n'a pas la luxure comme attribut. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, l'animal luxurieux, c'est le chien et la chienne, et les porcs, eux, ne font pas de cochonnerie, pourrait-on dire, en faisant un jeu de mots. En outre, leur robe est noire, est grise, est tachetée, brune, elle est plutôt sombre. Et ce sont des croisements avec des porcs venus d'Asie du Sud-Est, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui vont éclaircir vers ce blanc rosé que nous connaissons, le pelage des cochons. Et entre-temps, le chien s'étant revalorisé, on l'a débarrassé de ce vice de sexualité exacerbée et on l'a placé sur le porc qui n'y était absolument pour rien, mais qui hérite donc d'un nouveau vice et qui va donner lieu à toute la symbolique que nous connaissons. En effet, vieux cochon, cochonceté, balance ton porc, etc. Chez les Romains, on n'aurait jamais dit ça, bien sûr. Et donc, ça va contribuer à associer la couleur de la robe du porc, le rose, avec ce vice de sexualité débridée, de luxure, et ça va s'intensifier tout au long du XIXe siècle et devenir quelque chose de très banal. Associer le cochon, la couleur rose, à l'érotisme et au commerce charnel, pourrait-on dire.
Avec de surcroît une critique venant de ceux qui s'en prennent à la bourgeoisie. Je pense à Léon Blois, le fameux Léon Blois qui détestait l'esprit bourgeois et qui, dans sa fameuse exégèse des lieux communs, paru en 1902, c'est un ancêtre de l'histoire des préjugés qui a eu tant de succès récemment, dû à Jeanne Guéroux et Xavier Mauduit, l'exégèse des lieux communs où il écrit « Il faut du rose aux bourgeois ». C'est sa couleur, il déteste la bourgeoisie. Ses filles s'habillent de rose et même son épouse jusqu'à 60 ans passés. Lui aussi est rose et joyeux comme un jeune porc, toujours l'injustice à l'égard du porc. Lorsqu'il fait de bonnes affaires, il tient alors à voir tout en rose et veut que tout soit couleur de rose. Lui seul, après tant de poètes, ose encore parler de l'aurore aux doigts de rose. L'aurore aux doigts de rose, ça renvoie à Homère.
Ça renvoie à Homère avec une expression qui a été mille fois commentée pour souligner bien sûr que cela n'avait aucun rapport avec ni la fleur ni la couleur. C'est-à-dire un problème plus général quand nous avons des termes apparents de couleur dans la Grèce et dans la Rome antique, les traduire n'est pas facile parce que souvent les problèmes de luminosité ou de saturation l'emporte sur les problèmes de coloration. Et donc nous sommes abusifs quand nous mettons une couleur moderne là où il ne s'agit que de lumière ou de densité de la couleur. Par exemple, viridis, qu'on a tendance à traduire par vert en latin classique, bien plus souvent que vert signifie sombre. Donc ne faisons pas de faux sens. Quant à l'aurore aux doigts de rose, c'est une image poétique, peut-être pas exactement formulée ainsi par Homère, ou ce que nous appelons Homère, mais qui est passée à la postérité telle qu'elle.
Nous nous approcherons de la fin de cette émission consacrée à l'histoire du rose, Michel Pastoureau. Il faut que nous parlions de la féminisation ambigu du rose dans la seconde moitié du XXe siècle.
Oui, et il faut évoquer le côté genré de la couleur, qui est un phénomène assez récent et qui ne représente pas grand-chose dans la longue histoire du rose. C'est dommage qu'il occupe autant de place dans les publications consacrées à cette couleur. Ça n'est pas un phénomène très ancien, hein. Pour que l'on habille les petites filles de rose et les petits garçons de bleu ciel, il faut que l'on ait déjà des couleurs grand teint, comme nous disons aujourd'hui, parce qu'on les lave pendant des siècles et des siècles. Les bébés, bien sûr, sont vêtus de blanc, parce qu'on lave très fréquemment ce type d'étoffe et de vêtements. Et il faut également que la machine à laver soit non seulement apparue, mais diffusée. Donc, ça n'est pas antérieur aux années 1930, voire 1950. Et ça ne concerne pas l'ensemble de la population. Habiller les petites filles en rose et les petits garçons en bleu ciel, ça ne concerne pas ma génération à moi, mais plutôt celle d'après. Et il semble que ces dernières décennies, le phénomène se soit accentué, en tout cas soit devenu une sorte d'étendard d'une certaine féminité qui revendique le rose. Et des statistiques montrent en effet que les petites filles, en matière de vêtements, en matière de jouets, en matière de décor de leur chambre, par exemple, ont un goût certain pour la couleur rose, c'est indéniable.
On peut penser que c'est plutôt acquis qu'inné, ça cela se discute évidemment. C'est là que le rose est au cœur d'un affrontement entre les protestations féministes et les déterminations commerciales. Et c'est le cas en particulier pour ce qui est de la poupée Barbie, à laquelle, bien sûr, dans cette émission sur le rose, il faut que nous fassions un sort, Michel Pastoureau.
Oui, elle est agent de promotion de la couleur rose pour les dates les plus récentes, en tout cas à partir de 1959-1960. Le rose Barbie d'ailleurs évolue. Au début, c'est un rose relativement sage, on dirait un rose layette, nous. Et puis, plus on avance dans le temps, plus la poupée Barbie se transforme elle-même, se féminise, devient adulte.
Elle grandit.
Elle grandit, elle prend des formes, elle exerce toutes sortes de métiers, et sa couleur de rose pâle passe à rose saturé et même à rose violacé. Nuance de couleur que beaucoup de gens détestent quand on fait des enquêtes d'opinion et qu'on demande non pas quelle est votre couleur préférée, mais quelle nuance de couleur n'aimez-vous pas? Et ce qui se situe entre le rose et le violet est très souvent cité en premier. Tous ces tons parme, magenta, violacés à un titre ou à un autre.
Eh bien, écoutez ce reportage télévisé de Arnaud Boutet à Berlin sur l'ouverture d'une maison de Barbie à taille humaine. C'est un reportage de France 2, on est en mai 2013. Vous allez voir que apparaît très clairement cette ambivalence autour de Barbie, la poupée, et de son rose.
Une chambre rose, une cuisine rose, l'unique couleur se décline sur les objets bien réels d'un monde imaginaire où les pianos jouent seuls et les petites filles déambulent autour de leur héroïne taille réduite. Combien de Barbie as-tu chez toi ?
10.
Ce n'est pas trop ?
Non. Les petites filles doivent jouer à la poupée.
Devant le domaine de Barbie, 200 personnes dénoncent un cliché sexiste et rétrograde. La maison de l'horreur, peut-on même lire. Les féministes allemandes ne veulent pas du modèle imposé.
Il faut être mince et anorexique, avoir de longues jambes, être blonde, faire la cuisine, le ménage et vivre dans un monde rose. Ce n'est pas la réalité.
Même la presse titre « Paillettes, glamour, l'horreur » ou bien « L'enfer en rose ». Au cœur de Berlin, les 2500 mètres carrés de la Maison Rose ne laissent personne indifférent et les organisateurs se défendent de toute propagande.
Je ne connais pas les motivations des manifestants, mais je sais que les petites filles s'inspirent de Barbie. Depuis 54 ans, Barbie a suscité l'imagination.
En Allemagne, l'émancipation de la femme est un sujet important. Le débat dépasse le cadre de la petite poupée.
La société voudrait plus d'enfants, mais il faut se battre et bien souvent, personne ne nous aide pour ça.
Moi, j'ai deux petits-enfants, deux petites filles, et je ne suis pas convaincue par l'image que donnent ces jouets.
Fin août, Barbie rechausse ses talons et quitte Berlin pour une autre capitale. Le rêve rose continue, mais il pourrait être encore rattrapé par la réalité.
Voilà la question du rose comme genré, mais plus largement, on peut marquer que depuis les années 1930, le rose accompagne une certaine créativité. Je pense à la mode en particulier. Le cas de Elsa Schiaparelli est tout à fait topique.
Le rose étant peu présent dans la vie quotidienne dans les années 20 et 30, il attire bien sûr des créateurs de toutes sortes qui cherchent à faire écart, voire à provoquer, à transgresser. Elsa Schiaparelli est bien sûr et du nombre, c'est un moyen de se faire remarquer, notamment lorsqu'elle crée ce rose très saturé, très dense, à la fois pour l'étoffe et pour les parfums. Elle lance dans les années, à la fin des années 30, ce Shocking Pink qui est vendu dans une bouteille qui a la forme d'un buste de femme. On rejoint d'ailleurs les critiques que l'on vient d'entendre de ces féministes allemandes qui trouvent que cela va trop loin et que ça donne une image de la femme qui n'est pas très convenable ou qui est trop typée. La poupée Barbie d'un côté, le parfum vendu dans un flacon en buste de femme, c'est trop pour le monde féminin germanique contemporain.
On observe que Jackie Kennedy, au moment de l'attentat de novembre 63, où son mari est tué, portait un tailleur rose qui est devenu du coup une sorte de relique.
Il est devenu mythique, oui. Tailleur rose avec un col bleu marine qui aurait été éclaboussé par le sang du président. Donc l'image est célèbre, elle est devenue une relique, comme vous le dites. Ce tailleur était un tailleur Chanel, si je me souviens bien, qu'elle a porté souvent dans les voyages diplomatiques, et qui lui avait l'air fort bien, et qui la faisait remarquer parce que ce n'était pas une couleur très fréquemment portée par les dames dans ce type de relations et de milieu.
Du côté plus noble de la grande culture artistique notamment, on pense à certains peintres, par exemple au premier rang, Andy Warhol.
Oui, donc les créateurs, pas seulement les stylistes, mais aussi les peintres, ont fait le choix du rose.
Le pop art.
Pop art, pour se faire remarquer, pour faire écart. C'était un rose un peu tapageur. Ça a donné naissance à tout ce qu'on a appelé une pink culture, qui est allée si loin que finalement ces roses provoquants au début sont devenus relativement banals et aujourd'hui ne se remarquent plus tellement. On peut se demander quelle va être la couleur à venir qui finira par se faire remarquer. Aujourd'hui, tout fait écart, donc tout est à la mode et plus rien ne reste dans l'ombre en quelque sorte. Mais cette mode quand même est bien marquée entre la fin des années 50 et le début des années 2000. Aujourd'hui, elle s'essouffle. C'est l'époque où Elvis Presley roule dans une Cadillac rose, moyen de se faire remarquer, mais c'est Elvis Presley, bien sûr, et d'autres l'ont imité.
Les Beatles aussi.
Les Beatles, quelquefois le jaune se substitue au rose, le rose étant trop souvent mis en scène, il faut puiser dans une autre couleur qui n'est pas présente dans notre vie quotidienne, ou très peu, c'est le jaune. Mais maintenant, on commence à voir pas mal de jaune dans le spectacle de la rue, donc il va falloir chercher ailleurs.
Nous ne pouvons pas nous séparer, Michel Pastoureau, sans que, à la rencontre de votre passion pour les couleurs et celle pour les animaux, nous disions un mot de la panthère rose.
Voilà, qui est un grand agent de promotion de la couleur rose, au même titre que la poupée Barbie. À peu près à la même époque, la panthère rose apparaît dans un film de Black Edwards en 1963, puis devient un personnage de dessin animé, hein, ce long félin avec des membres démesurés, rose de corps avec un ventre blanc, et qui est à l'écran précédée de quelques notes de musique, toujours les mêmes, qui lui servent d'emblème ou de logo.
Et c'est le moment de nous séparer. Et là, c'est Michel Pastoureau, non sans que je rappelle le titre de votre ouvrage consacré aux roses, « Histoire d'une couleur », paru tout récemment aux éditions du Seuil, et qui prend la suite, c'est le septième, je crois, de vos livres successifs sur les couleurs, les six couleurs majestueuses, puis le rose qui court derrière.
Voilà, c'est le septième, et si le temps m'en est donné, il me reste à traiter du violet, de l'orangé, du gris et du brun.
Des couleurs intermédiaires?
Je dis les couleurs du deuxième groupe pour éviter toute connotation, mais intermédiaire serait bienvenu. Demi-couleur, on dit aussi quelquefois.
Et puis, j'aime particulièrement votre journal chromatique. Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique 2012-2016, au Seuil, 2017, qui poursuit ce que vous écriviez déjà dans les couleurs de nos souvenirs.
Ce que vous dites me donne envie de continuer mon journal chromatique avec un troisième volume qui parlerait de la période la plus récente. En effet, partout où je vais, j'observe les couleurs, il y a plein de choses à dire, donc je pourrais continuer, en effet.
Deux ouvrages qui traitent du sujet. Pierre-William Frégonèse, l'invention du rose, aux presses universitaires de France en 2023. Il est surtout consacré au Japon, si je ne me trompe.
Voilà, c'est une comparaison du statut du rose entre l'Europe occidentale et le Japon, mais le gros morceau est consacré au Japon, avec un soulignement de la place de cette couleur bien plus grande dans la vie quotidienne japonaise que chez nous en Europe, et très bien placé dans les enquêtes d'opinion sur la notion de couleur préférée. Je crois que le rose vient en quatrième position après le blanc, le rouge et le noir.
Et puis enfin, je citerai le livre de Kevin Bidot, paru en 2023, « Rose, une couleur aux prises avec le genre ».
Oui, c'est une thèse qui porte plutôt sur la période 19e, 20e siècle, 21e siècle même. Et je me réjouis que maintenant on consacre des thèses à l'histoire d'une couleur d'un point de vue social, d'un point de vue artistique, d'un point de vue scientifique également. Évidemment, moi quand j'ai commencé, ça semblait pas très sérieux quand on est un historien de s'intéresser à l'histoire des couleurs.
Ça s'appelle créer une école.
Merci.
Je pourrais trouver une bibliographie plus complète et naturellement une liste plus large de vos travaux, Michel Pastoureau, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Elle est disponible depuis 2011. Tandis que la panthère rose s'avance derrière nous, je vous rappelle que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Laurent César à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque et Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.